Ce cours est à la mémoire de Yaakov Ben Messonda, Veilel, dont c'est l'Azkara cette semaine, et également pour la bonne santé de tous les participants et leurs familles. Dans les parachas précédentes, Abraham avait fait des choix fondamentaux pour la conduite de sa vie. Il a renoncé à l'idolâtrie. Il a quitté son milieu familial qui était pernicieux. Dans cette paracha, celle d'aujourd'hui, nous voyons un thème clé qui est celui de la transmission des valeurs d'Abraham à la deuxième, puis à la troisième génération. Le nom de la paracha insiste sur cette idée. Toldot, c'est, on peut le traduire enfantement, engendrement, ou même plus simplement génération. Ce mot est en fait inséparable du cours de l'histoire, et certains utilisent même ce mot pour dire histoire. Je vais vous proposer donc de commencer par un simple résumé de cette paracha, pour voir un peu le contenu général, résumé au niveau du sens littéral, avant de nous pencher sur un verset clé qui est celui-ci. Jacob s'approcha de Yitzhak, son père, qui lui dit: la voix, c'est la voix de Jacob, et les mains sont les mains de Ésav. Jacob étant le frère de Ésav. Bon, on va revenir sur tout ça. Donc, la paracha relate toute une série de choses. Bien sûr, la naissance des jumeaux, Ésaü premier-né, et Jacob qui naît en tenant le talon de son frère. On voit que ces deux frères adoptent des voies dans la vie tout à fait différentes. Ésaü est un chasseur impulsif, Jacob au contraire un homme calme, attaché à la yeshiva, et attaché à l'étude, et on dit que qu'il est dans les tentes. Ce qui veut dire que contrairement à l'autre qui est dans les champs, lui est dans les tentes, il étudie. Et voilà qu'un jour, Ésaü rentre affamé et s'il décide de vendre son droit d'aînesse à Yaakov pour un plat de lentilles rouges. Bon, bien sûr, tout ça peut s'analyser, mais voilà grosso modo le début de la paracha. Et nous avons également une autre idée fondamentale, c'est que la mère de Yaakov et de Ésaü va inciter Yaakov à aller prendre une bénédiction de son père. Quand Ésaü découvre la supercherie, parce que cette bénédiction devait arriver en principe à Ésaü, eh bien, il est furieux et il se propose de tuer Yaakov. Et Yaakov s'enfuit et il va chez le frère de Rivka, donc c'est l'oncle de Jacob, qui s'appelle Lavan, dans la ville d'où Abraham est parti. Bon, voilà rapidement les grandes lignes de cette paracha. Maintenant, essayons notre méthode, qui est une méthode, j'ai envie d'appeler ça la méthode de la loupe, c'est-à-dire qu'on ne va pas se contenter de rester sur ce que l'on voit immédiatement, mais on va essayer de rentrer dans les mots, rentrer dans les versets, et notamment, comment on peut figurer ça, on fait un peu bouger le diamant pour voir les éclats différents de la même lumière centrale qui est la Torah. Donc, Yaakov va yigash, Yaakov el Yitzhak Abi, il s'est approché de son père et il a une réaction de son père qui s'attendait, n'oublions pas, à voir Ésaü, son fils aîné. Mais il voit arriver quelqu'un qui ressemble fort à Ésaü et il dit: la voix, c'est la voix de Yaakov, mais les mains sont les mains de Ésaü. Parce qu'il s'était, il avait fait en sorte que ses mains soient un peu poilues. Hein, ouais. Donc on a cru, il pouvait croire qu'effectivement il avait affaire. Donc c'est le sens simple. Et il va donner la bénédiction, une bénédiction à son fils, pensant la donner à Yitzhak, peut-être, hein, puisque c'est le sens simple, mais en fait, il est étonné du retour rapide de la chasse. de celui qui l'avait envoyé à la chasse. Et il y a cette question, qu'est-ce ceci? Tu as été prompt à trouver. Et Jacob répond, qui Ikra Hachem Elohecha Lefanaï. C'est que Hachem, ton Dieu, m'a fait trouver. Donc il explique pourquoi il est venu si vite. Or, là, on trouve une anomalie. Quand on voit un verset de Torah, on réfléchit toujours, bien sûr. Il y a des choses qui peuvent sembler étonnantes. Là, nous voyons dans la bouche, théoriquement, de Ressav, les mots, c'est que Hachem, ton Dieu, m'a fait trouver. Mais Ressav n'est pas quelqu'un qui parle de Dieu comme ça. Ressav parle en général avec rudesse. Et non pas avec une politesse qu'il considère comme complètement inutile. Et en fait, on a également un autre moment. Jacob dit, bon, on va passer au sens. On a vu le sens simple d'une manière précise. Hein. Ressav n'a pas l'habitude d'avoir le nom de Dieu à sa bouche, et Yitzhak est étonné par le ton qui est court. Là, lève-toi, je te prie. Et c'est pas comme ça que parle Isaac. Il est rude, il n'a pas de politesse inutile. Le sens allusif. Cette voix représente le pouvoir de la. Le mot voix, eh bien, on va le considérer non plus simplement comme le son qui sort de la gorge ou de la bouche, mais comme le pouvoir de la spiritualité. Les sages expliquent que ce verset exprime la force toute particulière de la prière de Yaakov. En fait, on est en train de nous parler de la prière, de l'étude, et on se souvient, parce qu'on a déjà lu la Torah plusieurs années jusque-là, on se souvient que Bilaam, quand il avait tenté de maudire les Hébreux, eh bien, ils avaient compris.
Compris
Comme
comme
l'enseigne, pardon, ils avaient compris comme l'enseigne Rashi, En koho ella befi. C'est-à-dire, il a expliqué au roi de Moab, les Hébreux n'ont pas de force, hors la force qu'ils ont dans leur bouche. La force d'Israël réside dans sa prière, dans son étude, et c'est ce que savait Bilaam. On a donc une allusion qui va rendre, puisqu'on a parlé de main et on a parlé de voix, une allusion double à la prière d'une part et au contraire vers l'action. Ésaü était tourné vers la matière. Ah. Ésaü était tourné vers la matière et il le démontre même jusqu'à la caricature. Lorsqu'il a vu Jacob préparer un plat de lentilles. Il se trouve que Yaakov, à un moment donné, a préparé un plat de lentilles. Bon, vous connaissez toute l'histoire, je fais très très bref, bien sûr. Hein. C'était un plat rouge et Esav a dit, donne-moi de ce rouge. Il va au plus simple. Les choses, il les voit que dans leur apparence. Il ne voit pas pourquoi ce plat de lentilles. En fait, c'était parce que il y a eu la mort d'Abraham et donc il préparait ce genre de plat-là. Non, il ne va pas au-delà de l'apparence. Et pour ce plat, il a vendu son droit d'aînesse à son frère. C'est une vision matérialiste du monde qui le caractérise. Et c'est pourquoi on l'appelle même Édom, rouge, le roux. Le Midrash enseigne que Ressav, c'est Édom. Et Édom, c'est-à-dire que c'est l'Empire romain, et on peut même aller plus loin, les royaumes de l'Occident chrétien, qui sont tous héritiers de Rome. En fait, la puissance matérielle, la puissance militaire, on sait bien que Rome avait cette puissance, et il suffit de regarder l'histoire pour voir que les royaumes de l'Europe occidentale, notamment, ou l'Amérique aujourd'hui, ont une force matérielle, tout et militaire, tout à fait considérable. Ils peuvent de fait être crédités de très grandes réalisations techniques. Dans l'histoire, on se rend compte qu'il y a les routes romaines, mais aujourd'hui, c'est même l'exploration du système solaire, c'est même l'arrivée d'un homme sur la Lune, etc., etc. Bon, regardons bien les mots. Hakol, Kol Yaakov, Ve'ayadayim, Yede Esav. Eh bien, ces mots, je vous propose de les regarder à présent à la lumière des signes musicaux qui sont le souffle même de la phrase, des phrases de la Torah. Nous avons deux signes musicaux, les théamim, particulièrement nets. On a Akol et on a Ve'ayadayim. Ces deux signes ne sont pas des signes conjonctifs. En fait, les signes musicaux sont de deux catégories. Les mesharetim, c'est-à-dire les signes conjonctifs qui relient deux mots, et les signes mafsikim, des signes disjonctifs qui séparent deux mots, qui séparent plus ou moins, de même que le point ou la virgule n'ont pas la même force de séparation. Eh bien, c'est un peu une sorte de ponctuation qui donne le souffle de la lecture. Eh bien, on voit, puisqu'il y a des signes disjonctifs, Akol a un signe disjonctif et le mot Ayadaïn a aussi un signe disjonctif. Ainsi, que vient nous apprendre tout cela? C'est que le monde matériel se trouve plus nettement séparé de. On a Ve'ayadayim, le signe, c'est le signe qui suit, c'est Tacha, comme vous direz la virgule, une petite disjonction. Alors que Akol a un signe disjonctif aussi, mais c'est un Kadma qui a une force de séparation également. Donc, ces mots font allusion à l'attribution de la puissance spirituelle à Yaakov et à ses descendants et de la puissance matérielle à Esav, ce que l'histoire, jusqu'à aujourd'hui en tout cas, semble confirmer. Nos maîtres indiquent, ces mots indiquent la force de la bouche des enfants d'Israël, force qui s'exprime dans leur limoud, leur étude, leur tefila, leur prière et leur brachot dites. Entre autres, avant de consommer des aliments, ou bien en bénissant les enfants, etc. Nous avons aussi, car il faut être toujours très 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 sensible à la grammaire, nous avons ici, c'est pas toujours facile, hein, mais on peut faire ça d'une manière très simple. Par exemple, tout le monde connaît en français la conjonction de coordination et, et. Voilà, on sait ce que c'est qu'une conjonction de coordination. Eh bien, en hébreu, nous avons un vav devant le mot qui dit ve ayadayim. Dans la phrase que l'on étudie, on remarque qu'il y a ve ayadayim, conjonction de coordination, au centre des deux propositions, akol, kol yaakov, ve ayadayim, yede esav. Eh bien, peut-être que cela vient nous enseigner que le monde matériel n'a été attribué à Esav qu'afin de servir Yaakov. C'était un partage des tâches, mais en vue de la spiritualité. En fait, les mains d'Ésaü devaient permettre à Yaakov, à la voix de Yaakov, de bien se déployer sans souci. C'est comme on dirait quelqu'un qui étudie toute sa semaine à l'yeshiva. Bon, il faut quand même qu'il mange, il faut qu'il apporte des choses à sa famille. Donc, il y a quelqu'un qui, avec ses mains, travaille et va l'aider. C'est un peu le sens originel de cette dualité. Akol ve'ayadayim. Mais il se trouve que Esav n'a pas accepté cette condition. Il n'a pas accepté cette condition. Il voulait consommer, entre guillemets, le monde matériel, pour lui, à sa convenance, et absolument pas se mettre au service de son frère Yaakov. À cause de ce refus, Le monde matériel est aussi revenu à Jacob seul, qui a obtenu à la fois le monde spirituel et le monde matériel. Mais encore faut-il, la condition est forte, elle est impérative. Encore faut-il que Yaakov et ses descendants prennent à cœur leur mission spirituelle, s'investissant dans l'étude de la Torah, dans la prière et dans les bonnes actions. Bilham, dont on a parlé tout à l'heure, et qui est, selon certains, une réincarnation de Lavan, d'autres disent que c'est le fils ou le petit-fils de Lavan, Ben Béor. Mais Béor serait Lavan. Bref, Bilham, sa signification, c'est qu'on est dans une continuité de l'opposition spirituelle à Yaakov depuis Haran, depuis que Yaakov a été à Haran. Laban lui a mis de quantité d'obstacles devant lui. Eh bien, Bilham, c'est la continuation de ces difficultés. Qu'a-t-il dit? Bilham, il a dit, allez voir leur maison d'études. Si vous y trouvez des enfants qui font entendre leur voix, vous n'aurez pas de pouvoir sur les Bnei Israël, car leur ancêtre leur a promis, aussi longtemps que l'on entendra la voix de Yaakov, les mains de Esav ne pourront rien contre lui et ses descendants. Et au contraire, comme on le lit dans Devarim, c'est parce qu'ils ont abandonné l'alliance de Hachem, le Dieu de leur père, qu'il avait conclu avec eux cette alliance-là. Hachem avait conclu cette alliance, comme ils ont abandonné cette alliance, etc. Donc le Zohar enseigne aussi, je l'ai lu dans une source secondaire, le prophète Eliaou s'est manifesté une fois dans un songe à Rabbi Hia. Il lui a dit: je suis venu maintenant pour faire savoir que Jérusalem sera bientôt détruite, de même que toutes les villes où habitent les sages. Et évidemment, c'était une information très dure. Mais le prophète Eliaou a continué. Or, Jérusalem, c'est la ville de la stricte justice, et c'est juste la justice qui règne en elle. Je suis donc venu pour faire savoir aux sages qu'ils peuvent prolonger la durée de Yerushalayim, alors qu'un décret de destruction avait été pris. Ils peuvent retarder la destruction tant que la voie y restera, tant que la voie sera la voie de Jacob, les mains de Esav ne pourront pas l'atteindre. Et après la sortie d'Égypte, la preuve a été administrée de façon éclatante aux yeux du monde entier, comme l'a rappelé Moshe dans sa demande au roi d'Édom. Il lui demandait, à la sortie d'Égypte, de traverser le royaume d'Édom. Édom, on le connaît, hein? Édom, c'est Ésav, ce sont les descendants de Ésav. Il lui a demandé de traverser tout simplement son royaume pour pouvoir entrer dans le pays que Hachem lui avait promis au Bnei Israël, mais il a refusé. Eh bien, Moshe a rappelé au roi d'Édom, chef du peuple de Ésav, que Hachem entend notre voix, conformément à la bénédiction de Jacob, notre père. Bon, voilà donc un petit peu ce verset en profondeur. Enfin, il y a beaucoup plus profond, hein, on est encore à la surface, mais tout de même, on a des éléments. Alors, je vous propose de comprendre maintenant une bizarrerie. Il y a écrit, on l'a dit et répété, « Hakol kol Yaakov ». Bien, mais comme on le sait, comme nos maîtres nous ont engagés à le faire, on ne regarde pas la Torah comme ça rapidement, on a attendu à Kol, Kol, Yaakov, très bien. Non, on regarde à Kol, Kol, Yaakov. Mais comment c'est écrit? À Kol, Kol, on a l'impression que c'est le même mot, c'est le même mot. Il est donc écrit pareil. Eh bien non. Regardez bien Shabbat quand vous entendrez, vous suivrez sur votre Humash ce qui est lu dans le Sefer, vous passerez sur cette phrase à Kol, Kol, Yaakov. Eh bien, à Kol, le premier, est écrit Kof Lamed, avec la voyelle O qui est un point, Rolam. Et l'autre Kol est écrit Kof Vav Lamed. Bon, C'est-à-dire que nous avons deux orthographes à un mot d'écart, puisque ce sont deux mots qui se suivent. Comme toujours, les particularités que l'on trouve dans la Torah véhiculent toujours un enseignement. Et on nous explique, au moment où la voix de Jacob se fait entendre, bon, on se répète un peu, parce que c'est les maîtres qui reviennent sur ça à plusieurs reprises, comment dire, grâce à l'étude et la prière, et ça ne peut leur nuire. Et on a donc cette différence d'orthographe. Pourquoi? On vient de le dire, c'est jamais sans raison. Il n'y a pas de texte sémantiquement plus riche que la Torah. Un ami, Sion, m'a dit cette semaine une chose extraordinaire, que des personnes non religieuses lui ont posé la question, mais comment peux-tu savoir? Comment peux-tu croire que Dieu existe? Je lui ai dit, moi, je suis pas, on est, je vais pas vous expliquer comment croire et tout, mais je peux vous faire réfléchir. Voilà comment je sais qu'il faut, pour moi, je peux croire. Est-ce que vous connaissez beaucoup de livres dans le monde dont les phrases, chaque phrase, indique plusieurs sens? Vous prenez Victor Hugo, vous prenez Dante, vous prenez Shakespeare, eh bien, prenez n'importe quelle phrase. Combien de sens y a-t-il dans cette phrase? Un, en général. Deux, s'il y a un sous-entendu. Rarement plus, jamais plus, en fait. On a deux sens. Eh bien, la Torah, c'est 600 000 sens. C'est le diamant qui n'arrête pas d'envoyer ses lumières. Et voilà pourquoi on est certain que ce livre n'a pas été écrit par un être humain. Et donc, il y a un créateur. Voilà donc l'explication merveilleuse de Sion à son ami. J'ai beaucoup apprécié, c'est pourquoi je me permets de le reproduire, cette information, à son nom, bien sûr. Hein. Bon. Et donc, il y a toujours une raison. Et là, nous avons Hakol sans vav. Bizarre. Eh bien, non. Hakol sans vav. C'est une lettre qui va se. Disons, le mot s'écrit E, Kof, Lamed, trois lettres. Et ce mot sans voyelle peut se vocaliser. Disons, si on le lit sans voyelle, on pourrait non pas lire Akol, mais lire Ekel, qui vient de la racine kal, qui veut dire léger. Ce qui fait comprendre Akol, Kol Yaakov, si Akol, la voix, si la voix de Jacob s'affaiblit, puisqu'on a cal faible, voyez-vous, donc l'absence de ce vav vient faire allusion à une signification. On peut noter aussi autre chose, c'est que, et là c'est mon fils Eliaou qui m'a appris ça, et également par ailleurs, mon maître Yitzhak Mazer, qui m'ont appris ça, tous les deux, conjointement, en fait. Ces mots, quand on les rencontre dans le Talmud, eh bien, on peut être stupéfait, parce que on ne les retrouve pas écrits comme dans la Torah. C'est-à-dire que nous n'avons pas le premier mot aser, c'est-à-dire sans, avec le vav qui manque, on l'écrit. Tous les deux mots sont écrits avec vav. Et on a un enseignement qui nous explique cela. Donc on peut être étonné, mais nous avons un enseignement qui nous vient de Rav de Tlemcen au XVe siècle, Rabbi Yehoshua ben Yosef Halevi, qui dans son livre Sefer Halichot Olam a écrit Derech HaGemara, etc., hein, les quatre serres, c'est là la pratique de la Gemara d'abréger les citations du Chumash et de ne pas les citer exactement. Et voilà donc la raison. Quand on lit dans le Talmud Hakol Kol Yaakov écrit différemment de la Torah, c'est normal, parce que c'est le derech, disons, la manière de faire de la Gemara. Bien, le temps est avancé extrêmement rapidement. Donc, nous avons bien expliqué, je crois, beaucoup d'aspects au niveau sens littéral, beaucoup d'aspects au niveau rémèse, hein, l'allusion, et au niveau de la. Comment dire, au niveau de l'allusion, des allusions, nous avons Jacob et Ressav qui font chacun allusion à une catégorie différente d'êtres humains, de forces différentes, l'une matérielle, l'autre spirituelle. Le plat de lentilles rouges va faire allusion à la passion, l'impulsivité, la matérialité de Ressav. Et on a dans le pas de la paracha des éléments relatifs au puits d'Isaac. Eh bien, Isaac creuse des puits. Eh bien, c'est une allusion à la recherche de profondeur spirituelle sous la surface des choses. Chaque puits est une allusion à des niveaux de Torah et à des indications spirituelles qui peuvent s'y trouver. Voilà, nous arrivons à la fin de ce sujet. Il y a également, bien sûr, le niveau Sod, et là, on nous explique que Jacob, c'est la Sephira Tiferet, c'est-à-dire l'harmonie, la vérité, la beauté. Jacob unit les mondes inférieurs et supérieurs par la parole sacrée. La voix, elle est immatérielle, elle traverse les mondes sans obstacle. Elle symbolise la force spirituelle qui ne dépend pas de la matière. Quant aux mains de Esav, eh bien, Esav est associé à l'action, on l'a dit, et en définitive, on a une opposition entre spirituel et matérialité, et l'humanité doit apprendre à unir les deux. Car la prière va inspirer l'action et l'action va donner corps à la prière. On retombe sur la nécessité qui était dans la pensée de Yitzhak Abinou de mettre la matérialité au service de la spiritualité. Mais Asav n'a pas voulu. Jacob, c'est Tiferet, c'est l'harmonie, c'est la beauté, c'est l'équilibre. Et il est associer notre patriarche à cette dimension, car il incarne la synthèse de forces opposées. Il a le Hesed d'Abraham, il a aussi la Gvoura de Yitzhak. C'est-à-dire qu'il est Tiferet parce qu'il est capable d'harmoniser les deux pôles en principe contraire. Il ne nie pas la rigueur, mais il la tempère par la bonté. Il ne se perd pas dans la bonté, mais il la structure par le djinn, par la justice. Il incarne ainsi une recherche de vérité, de sanctification au quotidien, et Jacob devient un modèle d'équilibre spirituel. Voilà donc quelques. On va bientôt nous enlever la parole, hein, parce qu'on est arrivé au bout du temps qui est imparti, mais nous avons terminé l'examen, certes superficiel, mais l'examen de ce verset et de la paracha Toldot. Je vous remercie pour votre attention. Je vais vous redonner la parole, hein, si vous voulez, tant qu'on a encore.